au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le roman de la rose est né deux fois, en 1230 et en 1270. Il est représentatif d'une première culture humaniste qui nous est parvenue au XXIe siècle. Une postérité rare qui en fait un document patrimonial. En quoi est-il comparable alors à la Divine Comédie de Dante ou au Don Quichotte de Cervantes? Considéré comme un monument littéraire, il est attribué à deux auteurs, le premier Guillaume de Lorris et le second Jean de Mains. Comment le lire aujourd'hui? Peut-on le dire d'actualité? Que raconte-t-il? Que nous a-t-il légué? Avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions, nous recevons Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, philologue et médiéviste, spécialiste de la littérature de la France médiévale au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, c'est-à-dire de poésie lyrique, en particulier pastourelle, de romans, ceux de Chrétien de Troyes ou de Rudebeuf, mais aussi spécialiste de littérature religieuse, de sermons en langue romane, de contes, qui constituent en fait son deuxième objet d'étude. Professeur au Collège de France depuis 1994, il occupe la chaire de littérature de la France médiévale. Alors, en rapport avec le sujet de notre émission aujourd'hui, rappelons qu'il est l'auteur de « Roman rose et rose rouge, le roman de la rose » ou « Guillaume de Dol de Jean Renard » paru en 1979, qu'il est l'auteur également de plusieurs histoires de littérature française médiévale et signalons peut-être « L'art d'aimer au Moyen-Âge » qui est très en rapport avec le roman de la rose paru en 1997 et parmi ses derniers ouvrages « Moyen-Âge et Renaissance ».
C'est un ouvrage que j'ai dirigé avec Gert Houbert et c'est l'édition des leçons inaugurales faites au Collège de France. Il y a la mienne en particulier, mais dans le domaine du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Voilà, mieux vaut avoir la précision par l'auteur. Et en 2010, un ouvrage qui s'intitulait « Livres anciens, lectures vivantes ». Michel Zinc, pouvez-vous nous présenter le récit du roman de la Rose et ce titre? Ce Eli, roman de la rose ou l'art d'amour au pluriel.
Est tout en clause.
Est tout en clause.
Est tout en clause. C'est-à-dire que le roman de la rose se présente comme un art d'aimer. C'est un poème qui se greffe sur une tradition poétique et amoureuse déjà très vivante et qui en même temps lui est fidèle et en même temps la renouvelle. Vous l'avez comparé à Dante et à Cervantes. Cervantes, c'est plus loin. Dante, oui, la comparaison est tout à fait pertinente et nous le verrons dans un instant. Le roman de la rose, donc, on suppose que la première partie a été écrite vers 1230, mais on n'en sait rien du tout. Et en tout cas, la partie Jean de Mains a été écrite vers 1270. Mais la littérature en langue vernaculaire, la littérature française à ses tout débuts dès le 9e siècle, et en tout cas est très vivante depuis la fin du 11e siècle, et en particulier sous la forme de la poésie d'amour des troubadours de Languedoc et des trouvères de Languedoil, imités par les Ménezingers allemands, etc. Cette poésie donc développe une sorte d'idée de l'amour et du désir, de la soumission à la dame, de la sensualité, une certaine forme d'érotisme à la fois discret et brûlant. Et ces poèmes ont une particularité formelle mais essentielle, qui est qu'ils commencent tous par un début amoureux. Le poète dit, voilà, c'est le printemps, c'est la saison des nids, l'herbe pousse, les petites fleurs, les oiseaux, la sève monte, et alors moi je suis amoureux. Ou bien, et moi je suis le seul à être exclu de cet amour. Ou bien, c'est l'hiver, la neige couvre la terre, et moi j'ai chaud au cœur parce que je suis amoureux, etc. Et l'originalité du roman de la rose, c'est de prendre ce début printanier et d'en faire le sujet même de l'œuvre, d'inscrire toute l'histoire de l'amour et d'une éducation sentimentale à l'intérieur de ce début printanier. Le roman de la rose se présente comme un rêve.
Un songe éveillé.
Non, pas éveillé, justement.
Il raconte
que le poète dit que il y a 5 ans, il a fait un rêve qui lui a beaucoup plu, mais qu'il n'a pas compris. Et maintenant, 5 ans après, il découvre l'amour dans la réalité et rétrospectivement, il comprend ce que ce rêve voulait dire. Ce rêve était « le 20e an de mon âge est le point qu'amour prend le péage des jeunes gens. Dans la 20e année de mon âge, je n'étais pas très précoce, mais enfin, à l'époque où amour prélève son tribut sur les jeunes gens, j'étais couché un soir dans mon lit et j'ai rêvé. » Et ce rêve, maintenant qu'il est en train de se réaliser, il le comprend et il le raconte en espérant qu'il sera pris en gré par celle qu'il aime et qu'il doit bien être appelé Rose. Et pourquoi n'a-t-il pas compris ce rêve? Parce que ce rêve est un rêve allégorique et il rencontre des personnifications. Il rêve comme il rêve qu'il se réveille, que c'est un matin du mois de mai et que bon, il se lève, il arrive près d'une rivière, il se lave, il est tout content. Bon, et il arrive devant un mur qui enclôt un verger. Sur ce mur sont peintes ou sculptées les figures des vices contraires à l'amour. Enfin, il y a aussi pauvreté qui n'est pas vice, mais enfin, tout ce qui est contraire à l'amour. Il frappe une petite porte, une jeune fille vient lui ouvrir, c'est Oiseuse, parce que pour être amoureux, il faut avoir le temps, hein, et elle l'introduit dans le jardin de déduit, de plaisir, où il trouve amour qui danse entouré des vertus, en somme, qui lui sont favorables. Il continue, il se promène dans le jardin, et il arrive près d'une fontaine dont une exception lui apprend que sa fontaine, c'est la fontaine dans laquelle s'est noyé Narcisse. En se penchant dans l'eau, je passe les détails, il voit dans la fontaine le reflet d'un buisson de roses. Il se retourne, va vers le vrai buisson de roses, dans le vrai mais dans son rêve, et remarque un petit bouton de rose particulièrement charmant. À ce moment-là, amour qui l'a suivi lui décoche une flèche qui, entrant par l'œil, atteint le cœur. On tombe amoureux par les yeux, puis 4 autres. Donc, il est éperdument amoureux. Alors, à ce moment-là, il n'a qu'une idée qui est de conquérir le petit bouton de rose. Et là, alors, raison essaye de l'en dissuader. On lui dit que pour, quand on est amoureux, c'est bien de pouvoir se confier à un ami. Justement, il a un ami qui s'appelle Ami et qui lui donne des conseils d'amis. Et alors, ils échangent des conseils. Et le bouton de rose est gardé par des gardiens qui ne veulent pas qu'il en approche. Il y a Malebouche, la médisance, hein. Il y a jalousie, il y a, etc. Donc là, le regard du monde. Bon. Et puis, il y a danger. Alors là, c'est la résistance intérieure de la jeune fille. Danger, c'est en somme la pudeur de la jeune fille qui la fait résister. Mais il y a tout de même près de la jeune fille quelqu'un qui lui est favorable, c'est Bel Accueil. Et grâce à Bel Accueil, il obtient un baiser du bouton de rose. Mais à ce moment-là, les autres arrivent et Jalousie construit une tour où Bel Accueil est enfermé. Alors il se lamente, il ne sait pas comment faire. Et à ce moment-là, au vers 4000 et quelques, le poème en a plus de 20 000, mais je ne vais pas raconter tout dans le détail. On lit le poème sans s'apercevoir que ça change. Mais 6000 vers plus loin, au vers 10 000 et quelques, le dieu d'amour, faisant une sorte de prédiction, dit « Voilà, le poème a été commencé par Guillaume de Loris, mais il mourra avant d'avoir terminé, et alors viendra Jean Chopinel ou Clopinel, au corps rapide, au corps inel, qui natif sera de Meun, et il continuera. » Et il continue au moment où, et il cite le vers exact. Bon.
Au moment où il est atteint de désespoir.
Voilà. Et si je perdus espoir à peu que je n'en désespoir. C'est là qu'est la jonction.
Et c'est là que Jean de Main
commence. Et alors, Jean de Main est un esprit tout à fait différent de Guillaume de Loris, bien qu'il puisse y avoir une feinte dans tout ça, c'est très compliqué. Jean de Main, qui est connu d'autre part, est un clerc parisien qui étudie à Bologne, maintenant on en est sûr, grâce à mon collègue Luciano Rossi, qui est un esprit très formé philosophiquement, théologiquement, littérairement, très cultivé, et il poursuit théoriquement l'histoire, mais en réalité, c'est une suite de discours, de digressions. Alors, il y a le discours d'ami, dans le discours d'ami, le discours du jaloux, le discours, etc. Bon. Et À l'occasion de ses discours, il donne ses idées sur l'état de l'Église, son hostilité aux ordres mendiants, particulièrement dominicains, son idée sur les grands problèmes philosophiques et théologiques, l'histoire des futurs contingents opposés à la toute-puissance divine, enfin des histoires comme ça. Et l'histoire avance tout de même, mais finalement, pour conquérir, alors la vieille duègne qui garde bel accueil est une entremetteuse, lui donne des conseils, mais ça ne suffit pas. Faux-semblant, qui est un dominicain hypocrite, joue son rôle aussi, et abstinence contrainte, contrefaite, etc. Mais ça ne va pas. Et à la fin, il faut que Vénus elle-même intervienne, envoie un brandon enflammé dans le château de jalousie, tout prend feu, et finalement, le rêveur, puisque c'est toujours lui, peut conquérir, c'est-à-dire qu'il arrive avec son bâton de pèlerin, et il y a une description, enfin, allégorique si on veut, mais extrêmement impudique, et il glisse son bâton de pèlerin entre les petits pétales, enfin bon, etc. Et ainsi eut la rose nouvelle, « Attends, fait jour, et je m'éveille, et ça s'arrête comme cela. » Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est que, au milieu de toutes ces réflexions, Jean Demain introduit surtout une réflexion sur la nature. Et cet amour des troubadours, cet amour héros, cet amour passion, qui est d'abord le sujet de Guillaume de Loris, il donne l'impression de lui être fidèle, et même simplement d'être plus grivois, plus cynique. Il dit « Mais est-ce que tu t'imagines que Dieu a créé Marion uniquement pour Robin et Robin uniquement pour Marion ?» Non, il nous a fait, beau fils sans doute, toutes pour tous et tous pour toutes. Il y a une sorte de libération érotique effrayante, presque. Mais tout cela pour dire que le but de la nature qui travaille, nature chambrière de Dieu, qui travaille l'ouvrière de Dieu, les mains de Dieu dans la création, qui travaille dans sa forge au maintien, à la propagation de l'espèce, le but de la nature, c'est la fécondité. De sorte qu'il y a une subversion, mais qui est en fait un retour à la morale, d'une certaine façon, dans l'œuvre, qui est que tout cet amour est là pour la fécondité. Et à la fin du roman, il y a une vision d'une sorte de paradis de l'agneau, où le temps est aboli, tellement plus beau que le jardin de plaisir, donc on a l'impression que c'est le paradis, et alors que l'œuvre a d'ailleurs été condamnée par les moralistes les plus sévères dès le Moyen-Âge comme une œuvre obscène et en plus antiféministe, il y a à la fin cette sorte de vision d'un amour fécond qui conduit à Dieu. C'est une œuvre extrêmement ambiguë, extraordinairement riche. Mais excusez-moi, je parle tout le temps et je fais des tunnels impossibles.
Donc ça n'est pas seulement le récit d'une initiation amoureuse qui a dû servir de modèle ou d'exemple, c'est aussi, d'après ce que vous venez de nous dire, donc un texte qui pose l'amour en débat et l'idée de la perpétuation de l'espèce comme une question peut-être essentielle. Alors, oui. Il y a une rivalité entre ces deux idées qui est peut-être débattue.
Mais il y a, c'est pour cela que vous aviez tout à fait raison d'introduire un parallèle avec Dante, parce que dans la poésie du XIIe siècle, on découvre enfin cette expression nouvelle de la passion amoureuse et de l'éros. Bon, très bien. Et le XIIIe siècle est dans tous les domaines un siècle réflexif qui essaye de mettre en ordre à la fois le savoir et les découvertes dans tous les domaines. C'est l'époque de la Somme théologique, si on veut, de saint Thomas, etc. Et il y a tout un courant de la poésie du XIIIe siècle qui est une sorte de poésie intellectuelle et qui essaye de penser cet amour que les poètes du XIIe siècle ont célébré avec tant d'ardeur, et de le penser en situant l'éros dans la totalité de l'amour. Où se place l'éros? Est-il légitime? Ne l'est-il pas? Légitime à quelles conditions? Bon. C'est ce que fait, d'une certaine façon, Jean Demain, partant du poème courtois, en somme, de Guillaume de Loris, si vraiment il y a deux poètes, on n'est même pas tout à fait sûr, et gauchissant cette vision de l'amour pour à la fois donner l'impression qu'il est une sorte de personnage obscène et ricanant, et en fait pour rendre cet amour compatible avec le plan divin.
Alors ça, c'est une vision qu'on n'a pas forcément, si vous ne l'expliquez pas aussi bien. Parce qu'on pourrait se tromper et croire que Jean Demain fait une satire ou est ironique à l'égard de Guillaume de Lorris ou de ce premier long poème.
Il est possible, c'est difficile à savoir. Vous savez, il y a eu à la charnière du XIVe et du XVe siècle une querelle du roman de la Rose. Certains attaquant le roman de la Rose, comme le chancelier de l'Université de Paris, Jean Gerson, au nom de la morale, parce que c'est une œuvre obscène. D'autres l'attaquant, comme Christine de Pizan, l'attaquant comme œuvre antiféministe. Jean de Main dit du mal des femmes, etc. Et d'autres défendant le roman de la Rose, en particulier les frères Gontier et Pierre Coll, mais d'autres, et disant, sous l'apparence de cynisme, il y a une morale de Jean de Main. Et surtout, ça répond à ce que vous dites, Jean de Main compose son poème comme une succession de discours placés dans la bouche des différents personnages, de sorte qu'on ne peut jamais savoir s'il prend à son compte ce qu'il fait dire aux différents personnages. Il y a des cas où on sait qu'il ne prend pas à son compte ce que dit Faux-Semblant, il n'y prend pas à son compte ce que dit le jaloux. Alors dans d'autres cas aussi, on peut hésiter. De sorte qu'effectivement, j'ai tort d'être trop affirmatif, il y a une hésitation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette réflexion sur la totalité de l'amour. Et cette réflexion sur la totalité de l'amour, on la trouve quelques années plus tard dans un ouvrage en Languedoc qui s'appelle « Le bréviaire d'amour » de ma frère Mango, enfin un juriste de Béziers, probablement d'obédience franciscaine, et c'est un bréviaire, donc un abrégé, mais enfin il y a quand même plus de 35 000 vers, et encore parce qu'il nous manque la fin, et ça commence, il y a au début de chaque manuscrit une grande miniature qui représente toutes les formes de l'amour. Et le poème traite de toutes les formes de l'amour, l'amour divin, l'amour du prochain, l'amour des parents pour les enfants, des enfants pour les parents, et puis ça se termine par le périlleux traité de l'amour des dames, fondé d'ailleurs sur des citations des troubadours, et là c'est l'Eros. Et on pourrait faire une démonstration de ce genre avec Raymond Lull, le poète mystique et logicien catalan, mais avec Dante, c'est clair, il commence par la Vita Nuova, qui est vraiment la découverte de l'amour-passion, enfin de la passion amoureuse, et puis le passage par la philosophie du banquet, et ensuite la comédie, où Béatrice commence par se transformer en une sorte de figure de l'Église, presque, ou tout à fait, et ensuite laisse le poète entre les mains de Saint Bernard, il conduit jusqu'à Dieu, et l'amour, finalement, la passion amoureuse du début de sa vie et de sa carrière et de son œuvre n'aura été que la première étape d'un cheminement qui conduit jusqu'à Dieu. Dans des esprits très différents, parce qu'il y a une traduction du roman de la Rose en italien dont on a dit qu'elle pouvait être l'œuvre de Dante. Enfin bon, mais il n'y a rien de plus différent de Jean de Main que Dante. Mais tout de même, ils ont en commun cette réflexion sur le tout de l'amour.
Il y a aussi une vision du mariage qui est présentée dans le roman de la Rose. Est-ce que justement l'Église a voulu récupérer ces, disons, d'éventuels écarts par rapport au mariage qu'elle imposait à la société de son temps? Quelle différence est-il fait? Et est-ce que ça explique aussi le succès du roman?
Oui, certainement, parce que le côté satirique, le côté grivois par moment, le très amusant. En fait, on croit que c'est très ennuyeux. En fait, non. Et les deux poètes sont excellents. Jean de Main est quelqu'un qui écrit de façon très serrée et très amusante. Et alors, bon, ça fait le succès de l'œuvre. Il y a que dans le mariage, au regard de l'amour, était une question qu'on se posait. On dit toujours, l'amour courtois est nécessairement adultère. Certains le disent, mais cum grano salis. D'autres non. Chrétienne III, qui célèbre l'amour courtois, dans plusieurs de ses romans, pose la question du mariage et de l'amour conjugal. Ce sur quoi il faut transiger, ce qu'il faut accepter, une espèce de conversion qu'il faut, à laquelle il faut parvenir pour connaître vraiment l'amour conjugal. Et d'un autre côté, du côté d'une partie de la littérature, il y avait des satires constantes du mariage, les histoires de cocu, les histoires de curé lubrique, tout ce qu'on veut, dans les fabliaux. Sur 150 fabliaux que nous possédons, il y en a 50 qui sont d'une obscénité très remarquable, même pour nous qui sommes habitués.
J'allais vous demander ce qui choquait à l'époque et ce qui nous choquerait aujourd'hui.
Et alors, bon, ça choquait parce qu'on voit bien que dans les romans courtois, d'abord, ces romans ou ces poèmes peuvent être très brûlants, mais s'arrêtent au moment fatidique, si je puis dire, ou n'appellent pas les choses par leur nom. Tandis que les fabliaux sont, mais c'est le même public en fait, hein, contrairement à ce qu'on a cru, sont un gros plan permanent sur les parties sexuelles. Et comme en plus, aujourd'hui, nous avons différents mots pour désigner ces choses-là, il y a un vocabulaire médical, un vocabulaire enfantin, un vocabulaire amoureux, un vocabulaire vulgaire, que sais-je. Tandis qu'au Moyen-Âge, il n'y a qu'un mot. Donc, on appelle un con et un vite, que ce soit un traité médical, que ce soit un poème, que ce soit n'importe quoi. Et alors, les fabliaux, enfin bon, je vous en raconterai s'ils étaient racontables, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. En même temps, c'est cette littérature obscène qui est plutôt du côté de l'Église, si je puis dire, parce que la littérature courtoise idéalise la femme et lui manifeste un grand respect. Tandis que du côté de la littérature cléricale, on considère que la femme est plus faible que l'homme, elle a moins de cerveau, d'ailleurs elle est née d'une côte, elle n'est pas née d'un cerveau, elle est née d'une côte. Et donc elle est plus soumise à ses appétits, moins gouvernée par la raison, d'où toutes les histoires qui courent les fabliaux. Mais en même temps...
On retrouve ça dans Jean Demain constamment.
Mais en même temps, alors ça pas chez Jean Demain, mais dans l'Église, il y a l'idée que dans le mariage, il faut être attentif justement au désir de sa femme, qui n'ose pas toujours l'exprimer, mais l'Église n'a pas du tout ce côté uniquement brimant qu'on pourrait penser. Par exemple, l'Église déconseillait ou interdisait aux jeunes mariés de partir pour la croisade, parce que il faut pas laisser une jeune femme comme ça seule, voilà. Mais parce que si ensuite la jeune femme fautait, c'est le mari qui était coupable.
À qui s'adressait le roman de la Rose, en fait ?
Alors, la question est très bonne. Il s'adressait à un public assez cultivé, hein, un public en partie laïque, puisqu'il est en langue vulgaire, probablement en partie féminin, comme toute cette littérature amoureuse, mais un public particulier en ce sens qu'il a été considéré assez vite comme un ouvrage savant et scientifique, en quelque sorte.
Une éducation, vous avez parlé d'éducation sentimentale tout à l'heure, est-ce que c'était une éducation tout court aussi
Une éducation plutôt intellectuelle,
oui. Qui pouvait s'adresser aux femmes.
Oui, alors, une grande partie de cette littérature s'adresse aux femmes. Roman de la Rose lui-même, je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour la littérature de cette époque, quand nous avons 8 à 10 manuscrits d'une œuvre, nous considérons que c'est une œuvre qui a été très diffusée et très connue. Et nous en avons des preuves d'autre part. Pour le Roman de la Rose, nous avons plus de 250 manuscrits. Donc c'est une œuvre qui a eu un succès fou. Et on voit, je parlais du bréviaire d'amour, on voit dans les bibliothèques justement des juristes, souvent des hommes de loi, des gens assez cultivés qui ne sont pas des gens d'église, directement dans le midi de la France. Eh bien, début du XIVe siècle, dans leur bibliothèque, ils ont le bréviaire d'amour. Et puis, plus tard, ils ont le roman de la Rose, qui leur paraît une œuvre plus importante. Et puis, le français se répand. Ils doivent trouver que c'est plus distingué d'avoir une œuvre en français qu'en occitan. Mais ils trouvent que c'est interchangeable, que c'est un traité sur l'amour en langue vulgaire. On a ça.
Au niveau de ces vers, de cette écriture, de la langue que vous maîtrisez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette écriture, de cette langue,
justement ? Alors, oui.
À l'époque, elle était comprise, donc, visiblement.
Ah oui, c'était le français c'était le français courant de l'époque. Simplement, ce français a vieilli assez vite, car en 1500, ça fait à peine plus de 2 siècles après, Jean Molinet écrit une adaptation en prose du roman de la Rose en disant « on ne le comprend plus ». Et pour nous, ce qui est dommage, c'est que cette langue qui a beaucoup vieilli, qui est effectivement difficile, rien que les graphies sont difficiles, et de sorte qu'on le lit plutôt en traduction, et en traduction ça perd beaucoup parce que non, ces vers rapides, serrés, simplement la virtuosité des rimes pour dire des choses difficiles ou des choses jolies, on le perd. Et c'est pour ça, si je peux me permettre, que j'ai créé, il y a plus de 20 ans maintenant, au livre de poche, une collection qui s'appelle Lettres gothiques, et où les textes de Huron qui publient des textes, il y en a une soixantaine, des œuvres littéraires du Moyen-Âge, français, occitan, un peu latin, en bilingue, comme les Budets. Par exemple, le roman de La Rose, là que vous avez sous les yeux, l'édition de mon ami Armand Strubel. Et donc, il y a le texte et la traduction en face.
En français, à côté, sur la même page.
Alors, comme ça, on peut... Bon, on lit la traduction, mais on peut se reporter au texte. Et avec la traduction en face, on comprend sans peine le texte. Et alors, on peut commencer... on dit communément, ou maintes gens disent qu'en songe, n'a que fable non, ne mensonge. Mais il est un songe, etc. Mais il y a des songes qui sont vrais, dit-il. Et il invoque Macrobe. Et c'est une très jolie langue, très ferme, très charmante. Et quand on fait l'effort de lire dans le texte, on est assez vite récompensé parce que c'est difficile, mais c'est du français quand même. Et si je peux conseiller quelque chose aux éditeurs, c'est de le lire à haute voix, parce que on trouve des mots, c'est écrit très très bizarrement, on comprend rien. Si on le lit à haute voix, on voit que c'est un mot très familier qui est simplement bizarrement orthographié. On est pris par le rythme des vers, et si on fait l'effort de lire 2-3 pages comme ça, et bien au bout de 3 pages, on comprend pas tout, mais on en comprend 80%, et on peut lire avec plaisir.
Est-ce qu'on sait comment on le lisait à l'époque? Comment lisait-on justement entre 13e, 14e siècle en public?
Oui,
quel
alors
rapport
ça change justement au 14e siècle. Pendant longtemps, on lit en public et on lit à haute voix. C'est-à-dire que quand on lit tout seul, on lit à haute voix ou en remuant les lèvres. Vous savez, il y a ce passage célèbre dans Saint-Augustin ou dans les Confessions où Augustin entre dans la pièce où se trouve son maître, le Ambroise de Milan, le futur saint Ambroise, qu'il n'a pas vu entrer, qui est en train de lire, et Augustin constate avec stupéfaction qu'il lit sans remuer les lèvres. Donc c'était une performance extraordinaire. On lisait en remuant les lèvres, et encore certainement au Moyen-Âge. Alors, ça dépend du genre littéraire. Les chansons des troubadours étaient effectivement chantées par le troubadour lui-même ou par un jongleur à son service ou par quelqu'un d'autre. Les chansons de geste, là l'image d'Épinal est vraie, étaient chantées par un jongleur devant une vaste audience, sur les lieux de pèlerinage, sur les parvis des églises, que sais-je. Les romans, genre plus intellectuel, étaient lus et non pas chantés. Même les premiers romans qui sont en vers. Et ils étaient lus, certainement à haute voix, mais dans un cadre restreint. Et on a un exemple célèbre dans Le Chevalier au Lion de Chrétien III, donc vers 1176-78. Le héros, Yvain, entre dans un château et dans le jardin du château, à l'intérieur des murs, il trouve le seigneur, sa femme et leur fille, et la fille lit un roman à ses parents. Fait la lecture à haute voix à ses parents.
Donc là, on a vraiment la preuve, j'allais dire.
Voilà, c'est ça.
Mais
vers la fin du Moyen-Âge, les gens lisent. D'ailleurs, même il y a une chanson de toile, donc ces chansons très archaïques, là, et si charmantes. C'est un de mes premiers livres sur les chansons de toile.
Les
chansons de toile qui sont supposées composées et chantées par les dames en travaillant.
La couture.
Enfin... Voilà. Et alors, il y en a une où, d'abord, la mélodie est très élaborée, plus que les autres, et la dame ne travaille pas à sa broderie, elle lit en un livre. Belle doète à sa fenêtre société, lit en un livre, mais au cœur ne l'en tient, de son ami Don l'y ressouvient, quand notre terre est allée tournoyer. Et elle apprend la mort de Don, c'est l'ancêtre de Malbrou, s'en va en guerre, cette chanson. Donc c'est du tout début du XIIIe siècle, et elle lit tout seule en un livre, qui peut être un psautier, un livre d'heures, ou un roman, on ne sait pas. Elle le lit probablement à demi haute, on n'en sait rien. Mais enfin, elle lit toute seule, et à la fin du Moyen-Âge, quand on a des bibliothèques princières, bibliothèque des rois de France, surtout à partir de Charles V, la bibliothèque des ducs de Bourgogne, il y a des inventaires à la mort du souverain, à la mort de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, on a un inventaire, et on s'aperçoit que certains livres ont été empruntés, sont sortis. Et des romans ont été empruntés, et généralement par des dames, par des princesses.
Donc, on lisait beaucoup donc, dans les...
On lisait, oui, il lisait. Alors, elle l'empruntait, cela vous allez peut-être dire, par son chapelain. De même, pendant longtemps, vous savez...
Elles en avaient connaissance.
Dans les romans du XIIe, du début du XIIIe siècle, on voit que le roi Arthur, ou le roi Marc, et ça, ne savent pas lire, enfin, ou lisent difficilement. Quand ils reçoivent une lettre, ils la passent à leur chapelain. Et le chapelain s'est expliqué quelquefois, la lit d'abord tout seul, pour être bien sûr de ne pas buter, de l'avoir lu. Et ensuite, il la lit à haute voix.
Ah, c'était tout un exercice.
Donc, c'est quand même un exercice. D'ailleurs, quand on voit les manuscrits, on comprend que c'était un exercice.
Michel Zinc, peut-être pour terminer sur ce roman de la rose, qu'est-ce que vous pourriez nous dire des traits d'humour ou des traits d'esprit qu'on y trouve ?
Oui, les traits d'esprit qu'on y trouve sont généralement des traits d'esprit grivois, sur des histoires de cocus. Alors, sur la coquetterie des femmes, c'est de l'humour et c'est pas de l'humour. Par exemple, les conseils de la vieille à la jeune fille, à ce moment-là, dans la partie Jean Demain, c'est Bel Accueil qui est la jeune fille, et la rose, c'est son sexe, en somme. Enfin, on a un peu changé, il y a eu un glissement. Et la vieille donne, qu'on a dit, voilà, si vous avez la poitrine qui tombe, mettez un soutien-gorge comme cela, si vous avez des dents gâtées, riez la bouche fermée, il faut vous farder, comme ça. Bon. Et alors, tout cela est dit naturellement, étant donné là, naturellement, comme grano salis. Ou encore, il y a un passage. Alors, ça montre que Jean Demain est toujours à la fois sérieux et pas sérieux. À un moment, Raison fait tout un discours à l'amant pour
Raison,
le détour.
Raison, c'est une des figures.
La personnification de Raison, une âme qui arrive. D'ailleurs, tout ça s'inspire de la Consolation de philosophie de Boèce, et Raison est décrite comme philosophie quand elle apparaît à Boèce dans sa prison. Et Raison, à un moment, dans sa démonstration, pour lui dire qu'il ne faut pas être amoureux, ça, emploie le mot « couille ». Et alors, ensuite, l'amant, qui d'ailleurs ne veut pas obéir à Raison, veut rester amoureux, lui dit, puis d'abord, je m'étonne qu'une dame sage comme vous, Raison, emploie un mot aussi vilain. Et alors, Raison lui dit, mais il est vilain parce que tu penses qu'il rattache à des choses vilaines. Bah, si on appelait les reliques des couilles et les couilles des reliques, tu trouverais que relique est un mot affreux. Ce qui est probablement une plaisanterie d'étudiant, parce qu'en latin, relique reliquia, donc il devait
y avoir des jeux de mots.
Il y avait un jeu de mots là-dessus. Alors donc c'est une plaisanterie, mais à partir de là il y a tout un développement tout à fait sérieux qui est un développement nominaliste et qui se rattache à la grande querelle philosophique des universaux, qui est la grande querelle de l'époque sur la nature des idées générales. Est-ce qu'un concept a une réalité? Ou est-ce qu'il est simplement un flatus vocis, un mot, etc. Est-ce que, bon, nous avons devant nous une table, hein. Le mot table dans sa généralité renvoie-t-il à une succession de tables réelles? Est-ce qu'il est un son arbitraire pour désigner ça? Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Est-ce qu'il y a une idée de table? Et quand on dit le mot table, on pense à l'idée de table et on voit que l'objet qu'on a sous les yeux correspond à l'idée qu'on en a. Et alors, jusqu'où cette idée allait-elle une réalité? Donc, ceux-là sont ce qu'on appelle les réalistes, ce sont les platoniciens. Et les autres, les nominalistes. Alors, Jean Demain est nominaliste. Enfin, j'explique beaucoup trop simplement. C'est une question extrêmement difficile, philosophiquement. Mais à partir de cette histoire de reliques et de couilles, il développe ses opinions.
Une digression savante, en fait.
Une digression savante, oui, et nominaliste.
Et complète de son temps, fort compliqué sur le plan philosophique, visiblement. Donc c'est ce qui fait la caractéristique de ce roman, ce mélange.
Exactement, ce mélange.
Entre références savantes de l'époque.
Un objet
que tout le monde peut lire,
que tout le monde a envie de connaître, l'amour, commençant comme les chansons d'amour, séduisant, pleine d'histoires plus ou moins amusantes, plus ou moins graveleuses, etc. Et donc quelque chose qui est, c'est vraiment le ton d'un ouvrage d'étudiant génial, mais d'étudiant, comme ça, traité de façon un peu cuistre de questions très abstraites. Et en même temps, y mêler des petites cochonneries, c'est typiquement potache. C'est un truc de cagneux, en fait.
Michel Zinc, pensez-vous qu'un jour, on puisse ne plus lire ou ne plus comprendre le roman de la Rose?
Écoutez, ne plus le comprendre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vraiment se mettent le soir au lit avec le roman de la Rose dans le texte original. Il faut bien dire ce qui est. Ne plus le lire du tout, vous voyez, ça pose la question générale de notre littérature ancienne. Pour ceux de ma génération, ou pour quelques-uns de ma génération, c'était presque ce qu'il y avait de plus important au monde, de connaître ces poèmes du passé, de s'en nourrir, de réfléchir sur eux. etc. Maintenant, ça demeure, c'est de, peut-être de moins en moins l'essentiel, ou peut-être que je suis un vieux schnock et que je suis un laudator temporis acti, je n'en sais rien. Mais c'est pas la peine que tout le monde lise le roman de la Rose, mais qu'il y ait tout de même toujours quelques-uns pour lire le roman de la Rose et pour, de temps en temps, pouvoir en parler un peu, comme vous me donnez l'occasion de le faire, en faire connaître quelques vers, quelques bouts. Espérons que ça restera, parce que sinon, ce serait, si tout ce passé de la poésie disparaissait, ce serait vraiment triste.
Michel Zinc, pourriez nous citer un ou deux vers du roman de la Rose qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Maintes gens cuide qu'en songe n'a ce fable nom, ne pense et mensonge. Mais on peut tel songe songer, qui ne sont mieux mensongés, un sont après bien apparents. Si on put traire à garant un auteur qui a nom macrobe, qui ne tint pas songes à l'aube, à mensonge. Et voyez, ce début, simplement en modernisant un petit peu la prononciation, c'est tout à fait compréhensible. Et voilà ce que je vous citais. Oui. Au 20e an de mon âge, au point qu'amour prend le péage des jeunes gens, couché m'allais une nuit, si comme je solouais, comme j'en avais l'habitude, et me dormois mout formant, si vit un songe en mon dormant, qui mout fut beau, et mout me plotte, me plut. Mais en ce songe, on que rien note nu, qui très tout advenu ne souhait, si comme les songes de visouet. Or, maintenant, veille ces songes rimoyés, pour nos cœurs faire aguissier qu'à mort le me prie et commande. Et ce nul ne nul demande, nul au masculin et au féminin, il était déjà correct, c'est ce nul ne nul demande, comment je veux que le roman soit appelé, que je commence, ce est le roman de la Rose, où l'art d'amour est tout enclose. Et alors, après, ils sont. Et hein, avis m'était qu'il y ait, remarque, c'était le mois de mai, il y a bien déjà 5 ans ou mai ou plus, quand mai était, se songeait au temps amoureux, plein de joie, etc.
Enfin, bref. C'est donc le début.
Et c'est le début du roman de la Rose.
Après cette pause musicale, écoutons justement la traduction des vers lus par Michel Zinc tout à l'heure. Nombreux sont ceux qui s'imaginent que dans les rêves, il n'y a que fables et mensonges. Pourtant, il est possible de faire des rêves qui ne soient pas mensongers, mais qui par la suite se vérifient tout à fait. Je puis en prendre pour caution un auteur qui s'appelait Macrobe, qui ne prenait pas les rêves pour des chimères. L'année de mes 20 ans, à ce moment où amour fait payer le péage aux jeunes gens, j'étais allée me coucher une nuit comme d'habitude et je dormais d'un sommeil profond. C'est alors que je fis en dormant un beau rêve qui me plut bien. Or, dans ce rêve, il n'y eut rien qui ne fût arrivé tout à fait de la même manière que le rêve le décrivait. Je veux maintenant mettre en vers ce rêve pour stimuler nos cœurs, car c'est amour qui m'en prie et me le commande, et si quelqu'un, homme ou femme, demande quel titre je veux donner à l'œuvre que je commence, je réponds que c'est le roman de la Rose, qui contient tout l'art d'aimer. Michel Zinc, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes gens qui voudraient lire le roman de la Rose ou pour qu'ils le lisent, parce que ça fait partie des documents patrimoniaux
oui,
pour les scolaires.
Voilà, je leur dirais que ce n'est pas ennuyeux comme on pourrait le penser, que cet éveil à l'amour est quelque chose qui nous parle encore, et que l'idée que on profite, on jouit vraiment de l'amour au moment où on le découvre et avant même de le comprendre vraiment et avant même de le connaître vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et que cette façon de mêler à ce qui préoccupe le plus les jeunes gens et qui est la découverte de l'amour, les questions de la vie, du monde, de cours des planètes, de Dieu, etc., c'est aussi quelque chose qui a une profonde vérité qui correspond bien à la façon dont l'esprit de chacun fonctionne, de sorte que si on fait l'effort de se plonger dedans, on ne le regrette pas.
Merci beaucoup Michel Zinc pour cette plus que présentation, pour nous avoir fait rentrer dans le roman de la rose, nous en avoir cité comme ça des vers, nous avoir expliqué sa composition complexe et surtout le sens de ce roman pour l'époque médiévale et ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Merci beaucoup et je signale que sur internet il existe un site qui s'appelle romandelarose.org qui est mis à disposition pour les chercheurs plus que pour nous tous mais qui regroupe la moitié des manuscrits du roman de la rose existants à travers le monde.
Oui, c'est une très belle entreprise qui a été lancée par un de mes excellents amis Stephen Nichols qui est professeur émérite à Johns Hopkins Université à Baltimore et c'est quelque chose de très important pour les chercheurs puisqu'il y a tellement de manuscrits de les avoir tous en ligne mais c'est quelque chose d'agréable pour tout le monde parce que les manuscrits du roman de la rose sont systématiquement illustrés. C'est une œuvre qui a toujours été illustrée.
Et voilà, on n'en a pas parlé mais effectivement ce qui a aussi probablement contribué au succès du roman c'est aussi peut-être
d'où l'intérêt de la très belle exposition qu'il y a en ce moment à la bibliothèque de l'Arsenal.
Voilà, qui va s'achever prochainement. Merci beaucoup Michel Zinc.
Mais merci à vous.